Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Après avoir clos 10 ans de cours sur la question de Palestine, Henri Laurence, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, a commencé l'an dernier un cours sur l'Empire ottoman au XIXe siècle qu'il poursuit cette année. Nous avons déjà diffusé il y a quelques semaines 2 séquences de 5 leçons que vous pouvez retrouver sur le site de l'Éloge du Savoir via franceculture.fr comme sur celui du Collège de France. 2 thèmes principaux structurent l'histoire de ce vaste empire qui s'étend des montagnes du Caucase au désert du Soudan, de l'Herzégovine à l'Irak. D'une part, les tentatives de modernisation du pouvoir central comme des gouverneurs des provinces qui génèrent des révoltes fiscales et des tensions entre les différentes communautés. D'autre part, les interventions permanentes des puissances européennes aux intérêts divergents, des intérêts géostratégiques britanniques au panslavisme de l'Empire russe. Dans ses dernières leçons, Henri Laurence avait exposé les révoltes successives des provinces slaves des Balkans où coexistaient quelques 6 millions de chrétiens et 4 millions de musulmans. Ces révoltes conduisirent à une violente guerre ouverte entre l'Empire russe et l'Empire ottoman en 1877-1878. À Istanbul, les événements des Balkans entraînèrent une révolution de palais. En mai 1876, le sultan Abdulaziz fut contraint d'abdiquer. Et 3 mois plus tard, son successeur, Mourad V, fut déposé à son tour pour être remplacé par son frère, Abdulhamid, qui régna jusqu'à sa destitution par les jeunes turcs en 1909. Dans les 2 derniers cours de cette année, Henri Laurence reprend l'étude des 2 provinces arabes de Syrie et d'Égypte, dont les gouverneurs, les pachas, disposaient d'une certaine autonomie avant de disposer bientôt d'une autonomie certaine. En Syrie, en 1878, au lendemain de la guerre balkanique, le nouveau sultan, Abdulaziz, nomme gouverneur Ahmed Sefik Midat Pacha, né en 1822 et mort en 1884. Ce dernier, qui avait été successivement gouverneur de plusieurs provinces ottomanes avec succès, fait partie de l'élite au pouvoir qui considère la réforme comme une nécessité vitale. Ce matin donc, Henri Laurence examine ses tentatives de réforme d'abord en Syrie, puis en Égypte. Écoutez.
On est donc dans un jeu politique habituel de questions d'Orient. Un gouverneur ottoman est vu comme proche d'une grande puissance européenne, donc il est perçu comme un danger pour le pouvoir central, mais que le pouvoir central doit tolérer, puisqu'on suppose qu'il bénéficie d'une protection étrangère. Donc ce que va faire le pouvoir, c'est d'essayer de le neutraliser par tous les moyens possibles dans l'attente du moment où l'on pourra obtenir le soutien des autres puissances pour l'éliminer. Les autres puissances interviendront puisqu'évidemment le fonctionnaire, le gouverneur apparaîtra comme appartenant à la clientèle d'une puissance, donc toutes les autres puissances vont s'opposer à lui. Mais en même temps, on est dans une phase de rénovation administrative et politique qui conduit à une séparation des fonctions administratives, militaires et judiciaires. Or, les réformateurs autoritaires, même libéraux comme Midat Pacha, voudraient avoir les moyens de faire passer les réformes. Or, justement, on va jouer sur la séparation des pouvoirs pour freiner les réformes. Alors, il faut bien comprendre que dans tout cela, le pouvoir central, Abdelhamid, bénéficie, si on peut dire, d'un réseau d'agents sur le terrain qui renvoie des rapports réguliers sur l'attitude de Medhat Pacha et de façon générale des personnalités de la province. Dans la langue ottomane, on appelle ça un journal. Un journal, c'est un rapport, disons, des renseignements généraux, si on trouvait un équivalent français. Mais là encore, les informateurs du pouvoir ont tendance à rajouter, ne serait-ce que pour justifier leur existence. Et ils vont aussi dans le sens supposé qu'on attend d'eux du point de vue du pouvoir. Midhat, c'est un patriote ottoman et un défenseur des idées libérales. Il n'a pas de sympathie particulière pour les Arabes, mais il croit que la rénovation des institutions doit passer par des actions de décentralisation et donc par un recours accru aux fonctionnaires locaux. Et il a, dans ce sens-là, le soutien de ces cercles d'intellectuels qui existe à Beyrouth, puisqu'on a vu la dernière fois, ou enfin les fois précédentes, que Beyrouth était devenu un des grands centres intellectuels de l'Empire, avec ses universités, ses collèges, etc. Et contre lui, il a les notables traditionnels qui identifient les réformes avec l'influence européenne et qui bénéficient de rentes liées au système bureaucratique. On aura donc contre Medhat une conjonction d'adversaires. Par exemple, les notables religieux vont utiliser systématiquement l'arme religieuse, la religion, pour l'accuser d'athéisme, ce qui, dans une époque d'un sultan calife, est évidemment une accusation grave. Mais en même temps, les religieux chrétiens vont aussi le dénoncer, parce que on sent que c'est quelqu'un qui est hostile aux privilèges communautaires donnés aux chrétiens. Midhat est le chef de file des libéraux ottomans, des gens qui veulent le rétablissement de la Constitution de 1876. Et il a, à travers l'Empire, des réseaux de partisans. Nous sommes encore à une époque, 1879, où le pouvoir hamidien n'est pas encore complètement installé. Le pouvoir hamidien du sultan Abdelhamid. Bien évidemment, le terme va revenir pendant des semaines et des semaines de façon régulière, puisque Abdelhamid sera le dernier grand sultan ottoman durant sa trentaine d'années de règne effectif. Donc c'est tout à fait essentiel. Il y a quoi nous occuper plusieurs années de cours pour rassurer certaines personnes ici. Pour Midhat, il faut apparaître comme l'homme indispensable, le seul qui puisse faire face au danger d'un soulèvement syrien, un soulèvement syrien qui serait l'équivalent des soulèvements balkaniques qui ont provoqué la guerre dans cette région. Alors, celui qui juge bien à distance tout ça, qui le dit avec une certaine brutalité qui est, disons, dans son caractère, c'est Bismarck, le chancelier allemand, qui déclare à l'ambassadeur de France à Berlin en novembre 1879, de façon assez brutale, je veux dire, les choses. « Je suis, je vous l'avoue, assez mal édifié des dernières et bruyantes manifestations de la politique anglaise à Constantinople. Je n'aime pas la diplomatie à la trompette que Bisconfield, Disraeli, mais en pratique, j'ai toujours préféré les actes au bruit. Et je crois qu'il était inutile d'alarmer l'Europe pour humilier un peu plus les Turcs. L'Angleterre avec le Turc est comme un chirurgien qui, pour mieux soigner un malheureux auquel un méchant voisin a rompu les deux jambes, lui casserait aussi les deux bras. Compte sur moi, je vais te venir en aide. Le barbare russe t'a pris Kars et Batoum, je vais te délivrer de Chypre. Il te menace en Arménie, je me charge de la Syrie. Il a la velléité de t'enlever même ta capitale, je te la prendrai avant lui. Voilà, depuis le congrès de Berlin, le rôle de la diplomatie britannique en Orient. Je ne fais certes pas profession d'aimer les Turcs, mais je les trouve excusables de faire la grimace et d'y regarder à deux fois avant de se laisser administrer les remèdes anglais. Il y a une fable de La Fontaine, l'homme entre les deux âges, qui dépeint à merveille la situation du sultan entre le russe et l'anglais. Vous vous en souvenez, l'une des maîtresses du pauvre homme arrache les cheveux blancs, l'autre les cheveux noirs, et le patient reste chauve. La brutalité de la politique anglaise est encore accentuée par le caractère de l'ambassadeur de la reine à Constantinople. Je vous ai dit souvent ce que je pense de Sir Henry Layard. Mauvais esprit, haineux et jaloux, capacité surfaite, le tout dirigé par une vanité sans limite. Je le regarde comme un agent dangereux pour toute l'Europe, à commencer par ce gouvernement à qui il se fait une gloire de ne jamais obéir. Donc, vous voyez, du Bismarck pur et dur, parce que c'est quelqu'un qui avait sa liberté de propos. En tout cas, Midhat essaye de faire des réformes en Syrie, la fiscalité, les conseils provinciaux, les grands travaux. Et là, il est dans le piège habituel de l'Empire ottoman finissant. Pour des grands travaux, il faut de l'argent. Pour l'argent, on ne peut le lever qu'en Europe, c'est-à-dire accorder des compagnies concessionnaires. Mais ces compagnies concessionnaires, quelle que soit la nationalité, sont les instruments de la mainmise européenne sur les provinces de l'Empire. Ce que Layard voudrait faire, c'est un réseau de chemin de fer au Proche-Orient équivalent au réseau de chemin de fer dans les Balkans, dont vous savez qu'il aboutit à la constitution de l'Orient Express. Alors, en septembre 1879, Layard se rend en voyage d'inspection en Syrie et, évidemment, ça ne fait qu'aviver les rivalités des uns et des autres. Les Français voient dans le voyage de Layard une étape supplémentaire dans la mainmise britannique de la Syrie. D'autres disent simplement que Layard essaye de faire une médiation entre le gouverneur et le sultan. Ce qu'on sait, c'est que l'ambassadeur britannique a posé au gouverneur de la province de Syrie, de Vilayet Souria, la question de savoir s'il existait bien une vaste conspiration visant à constituer un royaume arabe couvrant toutes les provinces arabes de l'Empire, avec l'habituel suspect, qui est l'émir Abdelkader, qui est toujours à Damas, il va bientôt mourir, mais enfin il est toujours à Damas. Et dans la logique des rapports politiques, Midhat a plutôt abondé dans le sens de l'ambassadeur, même s'il n'est pas sûr qu'il a vraiment une conspiration arabe, il lui paraît indispensable de dire aux Britanniques qu'il y en a une. Et donc, il confirme l'existence d'une conspiration qui regrouperait 100 000 Syriens, dit-il, réunis dans des comités secrets. Mais rien dans les archives ottomanes ne confirme l'existence des 100 000 comploteurs syriens. Du côté français, nous sommes à l'automne 1879. Il faut rappeler la chronologie de l'histoire de France quand on en faisait encore à l'école. Nous sommes entrés dans la période dite de la République des Républicains. C'est-à-dire un moment où les Républicains prennent le contrôle des institutions de la Troisième République avec la fin des notables, la démission de Mac Mahon, etc. On aurait pu attendre qu'avec l'arrivée des républicains dits opportunistes au pouvoir, la politique française devienne plus laïque. En effet, l'une des premières actions du gouvernement de la République des Républicains est l'interdiction d'un certain nombre de congrégations, dont en particulier les jésuites. Mais immédiatement, la République fait savoir que la laïcité ne s'applique pas à la politique étrangère de la France et qu'en Orient, la France est toujours protectrice des catholiques orientaux. Donc, l'un des premiers gestes de la République est d'augmenter la subvention française aux jésuites en Syrie, alors que les jésuites sont interdits en France métropolitaine. Hein, c'est la règle, vous connaissez la formule qui est attribuée à Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. Mais en ça, d'ailleurs, les républicains ne font que reprendre une tradition d'ancien régime. Je vous rappelle que Louis XIV était l'allié du Grand Turc et ne faisait pas de croisade, sauf contre les protestants à l'intérieur. C'est la même logique entre Louis XIV et les républicains. L'action en métropole n'a rien à voir avec la politique étrangère. Les données sont inversées. Évidemment, si la France est protectrice des catholiques, elle se méfie terriblement des protestants, qui ne peuvent être que les instruments des Britanniques. Donc, pour les républicains français, il y a bien un complot britannique, dont Midhat Pacha serait l'agent, Layard l'instigateur, et l'instrument, les missions protestantes. Il faut dire que Layard est lui-même un descendant de Huguenots, chassé de France après l'édit de Nantes, et donc ça ne fait que renforcer le côté suspect de l'individu. Et d'autre part, on sait que Layard est hostile aux privilèges des communautés chrétiennes dans l'Empire ottoman. Et il s'est particulièrement mis en ligne dans son hostilité aux catholiques orientaux, puisqu'il a pris la défense des orthodoxes dans l'Empire ottoman. Enfin, non, pas des orthodoxes. Les orthodoxes sont soutenus par la Russie, donc c'est les ennemis de Layard. Les catholiques sont soutenus par la France, c'est les ennemis de Layard. Mais les autres, c'est-à-dire les Assyriens ou Assyro-Chaldéens. Au passage, tout ça, c'est la faute de Layard. Je veux dire par là, vous rappelez, je vous ai expliqué que dans les années 1840, jeune diplomate, c'est lui qui avait fait les grandes fouilles de Ninive. Et dans la région de Ninive, où il avait fait ses fouilles, dont les œuvres qu'il a ramenées sont au British Museum, il y avait des chrétiens orientaux nestoriens. Et les nestoriens ont été tellement frappés par les fouilles de Layard qu'ils sont décidés de se définir comme étant des Assyriens. Et donc c'est à partir de Layard qu'on les a appelés des Assyro-Chaldéens. Donc le terme Assyro-Chaldéen pour les nestoriens est une production de la recherche archéologique britannique dans la région de Mossoul dans les années 1840-1850. Donc on peut aussi considérer que Layard avait une certaine sympathie pour les Assyro-Chaldéens qu'il avait fréquenté une trentaine d'années auparavant. Donc pour les Français, tout voyageur anglais devient un élément de la conspiration. Il en est de même de tout homme d'affaires britannique qui se déplace dans la région. Alors un homme va réunir sur lui tous les soupçons français, sans qu'il s'en rende compte, le brave homme. C'est encore un de ces grands aventuriers britanniques de la période victorienne, et ils ont été capables de faire une ligue des gentlemen extraordinaire, si on peut dire. Ces Britanniques de l'époque victorienne, c'est Laurence Oliphant, 1829-1888. C'est le fils de fonctionnaire colonial qui a passé sa jeunesse à Ceylan. On attribue à son père l'introduction du thé, de la culture du thé, à Ceylan. Il a servi dans la diplomatie de son pays, a joué un grand rôle dans la célèbre polémique entre Burton et Speke sur les sources du Nil. Il était du côté de Speke. Il a été élu membre du Parlement de 1865 à 1868, c'est un écrivain journaliste à succès, et chose plus intrigante, il est tombé, il est devenu un adepte d'une secte mystique protestante à tendance spiritualiste établie aux États-Unis. Je crois expliquer que le spiritisme apparaît en Europe, en Amérique du Nord, puis en Europe, dans la décennie 1850, et que les historiens font maintenant un rapport entre la diffusion du spiritisme et le télégraphe électrique, étant donné qu'il ne serait jamais venu à personne l'idée que les esprits pouvaient envoyer des messages codés avant l'invention du Morse. Ces idées aussi qu'il peut y avoir des messages qu'on peut diffuser à longue distance, qui sont la merveille de la technologie télégraphique de la seconde moitié du 19e siècle, va conduire aux esprits à envoyer des messages à longue distance aux mortels. Et donc, cette secte dirigée par ce qu'on appellerait aujourd'hui un gourou, qui reçoit des messages des êtres supracélestes et qu'il diffuse auprès de ça. C'est très intéressant ces rapports entre science et ésotérisme, puisqu'on sait qu'après 1945, ce seront les êtres de science-fiction qui apparaîtront à leur tour envoyer des messages aux humains. Ce que les Américains appellent les sectes ufologiques. UFO, c'est le nom des ovnis en anglais. Donc là, il travaille avec son épouse dans une communauté dans l'État de New York. Et puis quand même, on l'utilise aussi pour ses dons de journaliste et d'homme d'affaires. Et donc, il travaille aussi pour des histoires d'établissement de lignes télégraphiques intercontinentales. Je passe sur les détails. Il se rend en Orient en 1878, et donc à la sortie de guerre de Russie turque, il est terriblement ému par la misère des Juifs des Balkans. Je rappelais, je vous ai signalé les fois précédentes que les Juifs balkaniques avaient été parmi les victimes les plus importantes de cette guerre. Et il a une illumination, Oliphant, ce qui fera entrer dans l'histoire parce que sinon il serait une personnalité oubliée. Il a un projet grandiose d'une colonisation juive des régions de Transjordanie, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Jordanie, qui lui apparaissent vide d'habitants en dépit de son formidable potentiel agricole. Oliphant s'inscrit dans la tradition britannique et protestante de l'accomplissement des prophéties, c'est-à-dire donc de l'arrivée du millénium qui passe par le rassemblement des Juifs en Terre Sainte. Mais comme en Britannique, à la fois on peut être millénariste et penser aux intérêts de l'Empire, il pense aussi que l'établissement d'une colonie juive en Transjordanie serait un élément de renforcer la barrière ottomane contre l'expansion russe qui met en danger la route de l'Inde. En effet, ces juifs mettraient en valeur la région et donc augmenteraient les ressources fiscales et donc donneraient plus de moyens à l'Empire ottoman. Et pourquoi choisir des juifs et pas d'autres pour les envoyer? C'est que il y a une philanthropie juive, et donc on pourra demander aux grands banquiers juifs d'Europe de l'Ouest et d'Amérique de financer l'entreprise. Donc, parti avec ses projets mirifiques, Oliphant, qui appartient évidemment à la bonne société britannique, va faire sa propagande en 1879 dans les milieux dirigeants britanniques. En particulier, il est très bien reçu par la famille royale britannique qui le soutient. D'où le fait qu'il obtient du gouvernement britannique des lettres d'introduction. Et avec ces lettres d'introduction, il s'est rendu en Syrie et a rencontré Medhad Pacha qui lui a répondu poliment que son idée était vraiment très intéressante et qu'il faudrait vraiment l'appliquer, mais qu'il faudrait d'abord avoir l'accord du sultan. En fait, Medhad s'est pas trop mouillé. Il ménage ses Anglais, lui. Mais Oliphant a pris ça pour un encouragement. Et donc, il se rend à Constantinople, où Blayard l'introduit auprès des milieux dirigeants de l'Empire, les hauts fonctionnaires, et finalement, en avril 1880, Oliphant reçoit un entretien avec Abdulhamid qui a l'habitude d'accepter de rencontrer tous ces loufoques européens qui viennent le voir du moment qu'ils sont recommandés par leur ambassadeur et de les recevoir poliment. Mais il refuse tout engagement ferme en disant que son gouvernement serait tout à fait hostile à cette colonisation juive, ce qui met Oliphant en colère, puisque, au contraire, les vizirs lui ont dit que si on avait l'accord du sultan, tout marcherait bien. Ce qui fait que ça a plutôt provoqué l'inquiétude du sultan que cette crise de colère de son interlocuteur britannique. Il faut dire que Oliphant lui a expliqué que le retour des Juifs dans leur patrie biblique a trait le second avènement de Christ et la fin des temps. Ce qui était un peu surprenant pour le calife de l'islam d'entendre tout cela. Donc, pour les Français, il devient clair qu'il s'agit là de créer une colonie britannique en Transjordanie, d'autant plus qu'il y a d'autres projets britanniques du même ordre. En particulier, l'idée de créer une banque britannique, un crédit foncier hypothécaire en Palestine. Et de toute façon, un ancien ingénieur du Palestinian Exploration Fund, Kander, vient de publier un article dans la presse anglaise sur la nécessité de contrôler la Galilée et la Judée pour l'Empire britannique afin d'assurer la sécurité du canal de Suez. Donc, vous imaginez qu'avec tout ça, les Français deviennent extrêmement vigilants puisqu'ils voient une vaste conspiration anglo-juive pour s'emparer de la Syrie. Là, nous allons maintenant voir un autre personnage. Alors lui, on le voit un peu cette année, mais vous allez entendre parler longtemps de lui l'année prochaine, puisqu'on l'aura pratiquement à tous les cours de l'année prochaine. C'est Wilfrid Scavent Blount, 1840-1922, donc son nom va porter jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui a servi comme diplomate de 1858 à 1869, année où il a épousé une aristocrate, Lady Anne Noël, qui n'est autre que la petite fille de Lord Byron, si mes souvenirs sont bons, ça va être la fille d'Ada Byron, donc la célèbre mathématicienne. Donc, il commence alors une carrière d'écrivain, de poète et de voyageur. Et en 1875-1876, le couple entreprend un premier voyage en Égypte et en Palestine. En 1877-1878, c'est leur grand voyage le long de la vallée de l'Euphrate et dans le désert syrien, avec une exploration de l'Arabie qui les amène jusqu'au Najd, où ils sont reçus par l'émir Mohammed ibn Rachid, le chef de l'émirat de Shammar, donc le fils du chef Shammar que l'on avait vu avec Palgrave 25 ans auparavant et dans un cours précédent ici. En 1879, Lady Anne publie sa relation de voyage, écrite en collaboration avec son mari, sous le titre « The Bedouin Tribes of the Euphrates », les tribus bédouines de l'Euphrate. C'est un moment essentiel dans l'histoire littéraire et intellectuelle britannique, parce qu'on peut dater de Lady Anne en 1879, le début du grand mythe bédouin qui va entrer dans la culture britannique. Blount va jusqu'à écrire que l'organisation politique des Bédouins est extrêmement intéressante car c'est le modèle le plus pur de démocratie, le seul peut-être où les mots d'ordre de liberté, égalité et fraternité sont plus que des simples noms la pureté des mœurs bédouines contraste avec la corruption ottomane. C'est, comme je vous le dis, le début de ce qu'on avait appelé la romance des Blounts avec les Arabes, qui se transformera progressivement dans une vaste romance anglo-arabe qui pesera extrêmement lourd sur l'histoire du Proche-Orient. Parallèlement, les deux Blounts se lancent dans l'élevage de pur sang arabe. Grâce à leur relation avec les chefs bédouins, ils achètent des chevaux arabes qu'ils font venir en Angleterre et ils se lancent dans l'élevage donc anglo-arabe au sens chevalin du terme. Bien introduit dans les cercles dirigeants britanniques, Blount a déjà suggéré avant le congrès de Berlin à Lord Salisbury, alors ministre des Affaires étrangères, la constitution d'un ensemble syro-égyptien pratiquement indépendant de l'Empire ottoman. À la fin de 1878, le couple a entrepris un nouveau voyage en Syrie, où ils sont reçus par Medhat Pacha, puis par Abdelkader, et puis ils retournent évidemment en Arabie centrale. Blount apprécie peu Medhat Pacha, qu'il trouve trop vaniteux et trop européanisé. Il ne pense qu'en termes de chemin de fer, de canaux et de tramway, alors qu'il n'a aucune sympathie pour ses administrés, écrit Blount. Plus que les autres Turcs, Medhat méprise tout ce qui est arabe et se montre extrêmement brutal envers les Bédouins. Alors que les Bédouins, vous avez compris, c'est la merveille des merveilles pour Blount. Il prolonge le voyage en Arabie par un saut en Inde, où ils sont reçus par le vice-roi qui est un ami de la famille, Lord Lytton. Blount a de longues discussions politiques avec lui et projette de soutenir un soulèvement des Arabes contre les Ottomans à partir de l'Arabie centrale. Ils accepteraient la tutelle britannique, ce qui permettrait de renforcer la barrière contre l'expansion russe. Les Blounts envisagent donc de revenir l'année suivante, reprendre contact avec les chamars du Nejd, sur la voie de retour en Europe, puis achètent une propriété à proximité du Caire, où ils ont l'intention de passer une partie de l'année. Mais ce n'est que l'année suivante que Blount entame sa conversion politique assez extraordinaire qui fera de lui, jusqu'à sa mort, l'adversaire le plus résolu de l'impérialisme britannique. Alors on a une situation curieuse à cet automne 1879. Il y a le sentiment en Europe que les Anglais sont en train de mener une grande politique consistant à s'emparer de la Syrie et de l'Anatolie, voire de tout ce qui sépare la Méditerranée à l'Inde, tandis que les Anglais ont la conviction de plus en plus affirmée que la politique des réformes de l'Empire ottoman qu'ils essayent d'impulser est vouée à l'échec. À Constantinople, Damas et Beyrouth, les diplomates français sont particulièrement actifs pour dénoncer Medhat Pacha, qui est considéré par les Français maintenant comme l'homme à abattre. On est sous la République des Républicains. Donc c'est à la fin du recueillement. Nous sommes au redémarrage de la politique étrangère française. Et Medhat s'inquiète de l'action de la diplomatie française qui lui sait parfaitement hostile. Et donc, il s'adresse comme ça au consul de France à Beyrouth. Je cite, « J'ai pris instamment M. Fournier, c'est l'ambassadeur de France à Constantinople, de revenir sur l'opinion qu'il s'est faite de moi et je ne dois qu'à la jalousie et aux basses dénonciations de mes ennemis. J'ai pu lui assurer qu'elle n'est pas méritée. Lorsqu'il croit que je suis anglais, que je ne songe qu'à faire réussir toute affaire anglaise, il se trompe complètement. En mon âme et conscience, je ne suis pas plus anglais que français ou russe. Je suis turc avant tout. Voilà la vérité. Je ne désire que le bien de mon pays. Et si dans certaines circonstances je me suis appuyé sur les Anglais, c'est que j'avais un but pour cela. Et ce but n'avait d'autre objet que le bien même de mon pays. » Donc, en ce qui concerne la Syrie, Tant que je serai vali, c'est-à-dire gouverneur de cette province, je saurai m'opposer aux agissements de l'Angleterre, mais pour réussir dans ma tâche, je dois compter sur le concours de la France dont je connais la politique désintéressée en Orient, concours qui, je l'espère, ne me fera pas défaut, car il tournera aussi bien à son profit qu'à celui de mon propre pays. Mais les Français ne marchent pas. Là, les Français sont maintenant convaincus qu'il y a un vaste complot anglais. Alors là, il faut bien que vous compreniez une chose, la théorie du complot, le conspirationnisme, c'est d'abord une production du système colonial. Les archives coloniales, françaises et britanniques, sont remplies de complots. Alors à force, on a inoculé les indigènes de la maladie du complot, mais bien au départ, c'est quelque chose d'assez typiquement britannique. Et quand Layard, par exemple, fait des démarches en faveur des protestants de l'Empire ottoman, pour les Français, c'est un complot contre les catholiques protégés de la France. Quand les Anglais essayent de faire une banque hypothécaire en Palestine, c'est un moyen pour les Anglais de faire de la Palestine une colonie de l'Empire. De ce fait, à cet automne 1879, les Français perçoivent une agitation religieuse active dans les milieux musulmans et ils voient évidemment une démarche anglaise. Je cite. L'indication que l'agitation religieuse provient du fait de chers indiens et égyptiens a une signification à noter. L'Angleterre sait l'antipathie de l'arabe pour le turc. Elle n'ignore pas les dispositions à l'insurrection de toutes les provinces de l'Asie mineure, Syrie, Palestine, Bagdad, Mésopotamie. Sa mainmise sur l'Égypte, quoique nous semblions partager avec elle la tutelle administrative de ce pays, n'est un secret pour personne. Ses sujets musulmans de l'Inde sont un moyen d'influence considérable sur les autres musulmans de l'Arabie et de l'Égypte. Il est naturel qu'elle mette en œuvre tous les moyens d'ébranlement de l'autorité décrépite du sultan de Stamboul. Elle le sent incapable de vivre. Elle lui prépare un successeur religieux qui ne sera plus que religieux, le grand cheikh de la Mecque. Celui-ci deviendrait le centre religieux de la foi musulmane qui ne serait plus représenté par un pouvoir temporel, celui des califes, et l'Empire ottoman pourrait alors s'émietter facilement et les morceaux ont tombé aux mains de ceux qui seraient de force à les prendre et à l'administrer. Donc, en cet automne 1879, les Français, enfin les diplomates français, sont persuadés qu'il y a un complot britannique consistant à faire des shérifs de la Mecque le successeur religieux du calife de Constantinople. Bon, vous comprenez que tous ces échos qui reviennent là et qu'on voit là pour la première fois vont venir lancinant jusqu'à s'appliquer durant la Grande Guerre. Mais c'est à cette zone-là que l'on commence à voir des acteurs qu'on définit à tort ou à raison comme nationalistes arabes, comme sionistes, comme islamistes aussi d'ailleurs, nous allons le voir. C'est-à-dire, c'est dans cette espèce de répétition générale qu'est la crise d'Orient de 1876-1883 que vont s'énoncer pour la première fois les forces politiques qui feront le Proche-Orient de la première moitié du XXe siècle. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous de les suivre en détail. Alors, on ne sait plus très bien où on en est dans les conspirations, parce que les Français voient à la fois une conspiration anglaise pour un soulèvement arabe, mais aussi une conspiration musulmane à partir des Indes contre la Grande-Bretagne. Donc, les Français décident qu'il faut enquêter, et on va envoyer l'attaché militaire français, le capitaine de Torcy, faire une enquête en Syrie pour savoir ce qu'il en est exactement. Nous allons changer de sujet, nous allons quitter la Syrie pour l'instant et passer à l'Égypte. Parce que évidemment, dans cette région du monde, il ne suffit pas qu'on ait une crise, mais on en a plusieurs à la fois. Et évidemment, elles interagissent les unes avec les autres. Alors, dans le dossier égyptien, la France défend tout aussi bien les dossiers des créanciers français, puisque l'Égypte est en situation de banqueroute, que la défense des intérêts français, vaste à la conspiration britannique, qui non seulement s'étend sur la Syrie, mais s'étend pour les Français sur l'Égypte. Comme le dit le consul de France au Caire, 4 août 1879, l'Angleterre s'empare du présent pour mieux s'assurer de l'avenir. L'Empire ottoman est prêt de s'effondrer. À chaque craquement que se fait entendre, la main de la Grande-Bretagne s'appesantit plus lourde sur les contrées qui avoisinent le canal de Suez. Il lui faut le canal à l'abri de toute surprise. Il lui faut en outre l'Égypte, la Palestine, la Syrie et la mer Rouge avec tous ses abords. C'est le langage que tiennent les agents de la reine. Ils le tiennent assez haut pour qu'il nous soit permis de l'entendre et de le répéter. Dans ce contexte, les Français jouent la carte qui mène depuis le congrès de Berlin, 1878, qui est que les créanciers de l'Égypte sont essentiellement français et anglais, et donc il faut une parité française et anglaise sur le contrôle des finances égyptiennes, et en faisant la parité, les Français pourront neutraliser la politique britannique en Égypte. C'est ce qu'on appelle la politique du condominium. On va donc s'en tenir à la fiction que la prise de contrôle des finances égyptiennes est une affaire purement financière, n'impliquant pas les autres puissances, qui ne sont pas vraiment dupes. Mais du moment que Français et Anglais se neutralisent, tout va bien. Or, évidemment, la crise financière égyptienne affaiblit dangereusement le pouvoir dynastique, seule force capable de faire face aux Européens. Ismaël tente de jouer les Français qui contrôlent l'essentiel de la dette flottante égyptienne, c'est-à-dire les bons du trésor équivalents, contre les Britanniques qui, eux, contrôlent plutôt les emprunts d'État. Mais le Khedive doit accepter en mai 1876 la création d'une caisse de la dette publique chargée de faire respecter les obligations financières de l'Égypte. Un certain nombre de revenus de l'État ont été gagés directement lors de la levée des emprunts. Ils sont soustraits des ressources publiques pour alimenter directement la caisse. La caisse est dirigée par trois commissaires désignés par la France et l'Angleterre et l'Italie, la France, l'Italie et l'Autriche-Hongrie, puis ensuite un quatrième commissaire désigné par l'Angleterre. Celui qui est le délégué anglais, c'est Evelyn Baring, que nous allons avoir aussi sur le dos pour un certain nombre d'années, puisque c'est le futur Lord Cromer. Ismaël tente différentes expédients comme celui proposé par Palgrave et Gordon Pasha, en liaison avec Sherif Pasha, de procéder à une sérieuse évaluation des ressources fiscales de l'Égypte, ce qui permettrait d'obtenir une réduction de la dette égyptienne à ses capacités de paiement. On est exactement dans une situation où on a un pays qui est surendetté, dont on ne connaît pas les ressources, et donc on essaye de restructurer la dette en faisant d'abord une simplification de son administration, une réforme de son système financier, impulsée de l'extérieur par un contrôle extérieur. Nous sommes en 1878. Bien. Les commissaires européens sont hostiles au projet Palgrave et ils sont obligés de se retirer. Donc on arrive à un premier plan de consolidation de la dette égyptienne sur la base d'un intérêt de 7%, ce qui veut dire une prise de contrôle des finances de l'Égypte par les puissances européennes. Au sommet du système de prise de contrôle, vous avez un commissaire britannique qui surveille la collecte des revenus, et un commissaire français qui contrôle les dépenses. Donc le britannique, c'est Evelyn Baring, et le français, c'est Monsieur de Blinière, qui sont les deux contrôleurs financiers, et c'est ce qu'on appelle le régime du condominium. Tous ces employés européens font officiellement partie de l'administration égyptienne, qui assure leur traitement assez onéreux, et doivent porter la tenue officielle des hauts fonctionnaires ottomans, c'est-à-dire le fez et la stamboline, la redingote ottomane. Donc on a des gens venus d'Europe, essentiellement des Français et des Anglais, chargés de restructurer les finances égyptiennes, et bien entendu, ils ne parlent ni l'arabe ni le turc. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des experts. Alors, comme ils ne connaissent pas la langue des pays ni l'administration des pays, ces fonctionnaires européens s'appuient sur des syro-libanais qu'on appelle des levantins, qui les introduisent et leur expliquent le fonctionnement du système financier de l'Égypte. Et il s'avère assez rapidement qu'on a surestimé les ressources de l'Égypte et que le taux de 7% pour la dette égyptienne est beaucoup trop élevé. Tout l'enjeu va être d'abord d'essayer de déterminer quelles sont les ressources réelles de l'Égypte. Il y a une thèse récente, une remarquable thèse soutenue récemment à Aix-en-Provence, a montré que cet effort a fait naître la statistique en Égypte. Parce que on a essayé de faire l'inventaire des ressources du pays, donc de créer un système de statistiques économiques sur l'Égypte à l'époque du condominium. De surcroît, les représentants des puissances européennes n'ont plus aucune confiance en Ismaël, que l'on présente maintenant comme un despote absolu dont les excentricités financières sont la cause de la crise financière. Les Européens travaillent donc à déposséder Ismaël de son pouvoir et de ses richesses. Il ne s'agit pas de libérer l'Égypte du despotisme du Khedive, il s'agit de le remplacer par des Européens. Ismaël doit donc se séparer des biens fonciers non hypothéqués de sa famille contre une liste civile. On établit une commission d'enquête internationale sur les finances de l'Égypte qui est présidée par Ferdinand de Lesseps. Finalement, le Khedive doit accepter la création d'un conseil des ministres qui comprend deux ministres européens, un français et un britannique, le 28 août 1878. Les Italiens qui demandent aussi à avoir un ministre sont renvoyés dans le vestiaire, ils ne sont pas assez puissants. L'établissement d'un gouvernement distinct du Khedive n'a pas pour motivation l'établissement d'un régime constitutionnel de limitation des pouvoirs, mais le but de se dispenser de la bonne volonté d'un seul homme que l'on qualifie le plus souvent de despote. Ce dernier doit aussi céder à l'État égyptien tous ses biens non hypothéqués ainsi que ceux de sa famille pour la liste civile, pour avoir une liste civile. Dans cette entreprise de dépossession du Khedive, les Français et les Anglais ont le soutien d'une partie de l'élite gouvernementale égyptienne qui prend ses distances par rapport au Khedive parce qu'il ne veut pas être entraîné dans le naufrage d'Ismaël. Et l'homme le plus actif dans ce sens-là, c'est l'Arménien Nubar Pacha. Et donc c'est Nubar qui est chargé de présider le premier ministère égyptien qui entre dans l'histoire sous le nom de ministère européen. Alors, comme il avait un humour assez noir, Nubar Pacha fait une déclaration gouvernementale qui fait parler au nom du Khedive, c'est donc le pays Khedive qui est censé parler, mais qui est une vacherie pure adressée au Khedive, par le Khedive. C'est la phrase célèbre qui avait souvent été prise en contresens, que je vous cite. « Mon pays n'est plus en Afrique, nous faisons partie de l'Europe actuellement. » Donc on avait vu dans cette phrase de Khedive Ismaël toute sa volonté d'européaniser l'Égypte au nom de la civilisation en marche. Mais là, c'est une vacherie. Si le pays, l'Égypte n'est plus en Afrique, c'est parce que les Européens contrôlent l'Égypte. Il est donc naturel pour nous d'abandonner les errements anciens pour adopter un système nouveau adapté à notre état social. Je crois que dans un avenir peu éloigné, vous verrez des changements considérables. J'ai chargé Mubarak Pacha de me former un ministère. Cette innovation peut paraître de peu d'importance, mais de cette innovation sérieusement conçue, vous verrez sortir l'indépendance ministérielle, ce n'est pas peu. Car cette innovation est le point de départ d'un changement de système et d'après moi la meilleure assurance que je puisse donner du sérieux de mes intentions relativement à l'application de vos conclusions. Donc Mubarak apparaît là aussi comme l'homme lige des Anglais, même s'il essaye de jouer les uns contre les autres pour conserver une marge de manœuvre. Mais le ministère européen n'a aucune base dans le pays. Il ne dépend que du soutien franco-britannique. Et on a beau condamner le despotisme du Khedive, on conduit, au nom des intérêts européens, une politique toujours aussi despotique. Ce qui fait qu'une fraction considérable de l'élite égyptienne va s'opposer au ministère européen. Cette fraction va se présenter comme les défenseurs des intérêts égyptiens, bien que l'on reste toujours dans l'entourage du Khedive, c'est-à-dire des, ce qu'on appelle les turco-circassiens, les hommes de bonne société, les awat en turc et en arabe. Mais ça correspond à l'étape supplémentaire du processus historique que je vous ai expliqué la fois précédente, dans lequel ces turco-circassiens qui sont maintenant de seconde ou troisième génération en Égypte se sentent égyptiens, disons au moins propriétaires de l'Égypte, ce qui est plus précis parce qu'ils continuent à mépriser les Égyptiens de souche, les fellahs, mais ils se sentent propriétaires de l'Égypte et donc qui reprochent à Mubarak de livrer leur propriété aux Européens. Alors, pour reprendre ses pouvoirs, Ismaël va appuyer sur cette fraction qui se veut nationale de l'élite égyptienne qui est représentée entre autres par un shérif pacha et par la montée du mécontentement des victimes des restrictions budgétaires chez les fonctionnaires et les militaires. Les principales victimes des restrictions budgétaires drastiques imposées par le contrôle financier européen, ce sont les Égyptiens de souche, les fonctionnaires et les militaires, les fellahs. Plus de 1600 officiers, pour la grande partie d'origine fellah, ont été mis en demi-solde et on ne leur verse même pas la demi-solde. Pour le Khedive, le maintien de l'indépendance relative du pays se confond avec celui de son propre pouvoir. Donc, Ismaël va entamer la manœuvre de s'appuyer sur l'ancienne chambre des délégués, vague organisme de consultation qu'on avait vu se créer sous le règne d'Ismaïl, pour exprimer un discours national égyptien qui s'opposerait à la mainmise européenne. Et donc, encouragé par Ismaïl, en janvier 1879, les élus adoptent un discours révolutionnaire et se posent comme les représentants de la nation égyptienne, al-Umma al-Mestriya. Ils vont même parler du droit des sujets, hukuk al-Aya. Et on a là, si vous voulez, dans cette pétition nationale, lancée par les députés, mais soutenue en sous-main par le Khedive, la naissance du discours politique moderne en langue arabe, avec tous les termes de nationalité, de patriotisme, de nation, qui apparaissent cette fois clairement, non pas comme des traductions de termes européens, pour expliquer ce qui se passe en Europe, mais appliqués aux populations du Proche-Orient. Donc, c'est là la complexité de la situation Parce que d'un côté, vous avez bien une manœuvre politicienne du Khedive qui s'appuie sur les délégués pour contester le ministère européen, mais de l'autre, vous avez bien l'émergence d'un discours libéral dans la population arabe du Proche-Orient. C'est dans ce contexte que le 18 février 1879, une manifestation d'officiers s'en prend au ministère européen. Nubar a le sentiment que l'on avait donné des ordres pour le tuer, parce qu'il a failli être lynché par les officiers. Et Ismail profite de la crise pour renvoyer le ministère et former un nouveau gouvernement dont il est lui-même le président du Conseil, s'adressant à l'Europe en disant « Il n'y a qu'un seul homme en Égypte qui est capable de maintenir l'ordre, c'est moi. » Et donc il espère par ce discours obtenir le soutien de l'Europe. Mais la France et la Grande-Bretagne veulent immédiatement le rétablissement du condominium et on essaye d'expliquer gentiment à Ismail que dans un gouvernement constitutionnel, le souverain doit souvent accepter des ministres qu'il n'apprécie pas personnellement. L'intéressé leur répond que dans ce cas, ces derniers doivent avoir le soutien du peuple et Nubar Pacha, par définition, n'avait aucun soutien dans la population égyptienne. On a donc un dialogue de sourds entre deux autocraties, l'autocratie khédiviale et l'autocratie des consuls étrangers au nom des intérêts financiers de l'Europe, les deux autocraties essayant de prendre comme arme le discours politique libéral et national au nom des réformes dans chaque cas. Le Khedive cède et nomme son fils Tufik Pacha comme président du Conseil, les deux ministres européens réintégrant le ministère. Les deux ministres européens s'engagent à ne pas participer au Conseil des ministres, mais demandent d'être consultés préalablement à toute décision. Alors, on ne doit pas cacher que ce sont surtout les paysans qui supportent le poids de la taxation destinée à permettre le paiement de la dette égyptienne. De plus, la conjoncture agricole est mauvaise avec le bas prix du coton et des épisodes de sécheresse. Les témoignages convergent sur la situation de misère extrême dans laquelle se trouve la paysannerie égyptienne. Les Européens en font porter la responsabilité sur la mauvaise administration du Khedive. L'intéressé et ses partisans préfèrent évoquer la rapacité des créditeurs étrangers et des usuriers européens levantins qui bénéficient de l'appareil judiciaire des tribunaux mixtes. Dans certaines régions du Delta, les paysans sont ainsi forcés à céder leurs biens aux créanciers européens et levantins afin de pouvoir payer les impôts. Donc le Khedive essaye de jouer sur le mécontentement général pour regagner son pouvoir.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Henri Laurence, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours d'Henri Laurence consacré à l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.